E sono le 11:59 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout, trasferite al Festival Alta Felicità. Iniziamo adesso l'intervista con Luisa Iusfi, autrice di Restare Barbari, i selvaggi all'assalto dell'impero, che potete anche trovare oggi pomeriggio nell'area Dibattiti. Quindi eccoci qui con Luisa Iusfi, giornalista, militante decoloniale, che oggi è con noi proprio per affrontare una serie di questioni che sono contenute all'interno del suo libro Restare Barbari. Merci Luisa d'être avec nous. La prima domanda, anche un po' per contestualizzare ciò di cui andremo a parlare oggi, è forse definire che cosa vuol dire essere indigeni. Quindi qual è lo status di indigeno? Qual era lo status di indigeno nelle colonie al tempo della colonizzazione francese, in particolare qua parliamo dell'Algeria, e cosa significa invece essere indigeni adesso, nel terzo millennio, indigeni della Repubblica?
Je dirais d'abord que indigène, c'est un statut politique qui était celui des colonisés, notamment en Algérie, en ce qui me concerne, puisque je suis d'origine algérienne. Donc c'était le statut qui était dans lequel les colonisés étaient enfermés, puisque c'est un statut en fait de sous-hommes, c'est-à-dire qu'ils avaient moins de droits que les colons français et qu'ils étaient simplement voués à être sur leur propre terre, hein, à être des espèces de, voilà, de marchandises humaines, quoi. Et donc c'est un statut, hein, de dominer en fait, mais de dominer structurellement, légalement, via le code, ce qu'on appelle le code de l'indigénat, qui est le code que la France a instauré pendant la colonisation pour distinguer les populations blanches européennes des populations non blanches, des populations arabes, musulmanes, etc.
Indigeni, direi che per prima cosa è uno status politico. È lo status politico dei colonizzati, decolonizzati in Algeria, per esempio, parlo del contesto algerino perché sono di origine algerina, ed era lo status con il quale i colonizzati venivano rinchiusi, all'interno del quale venivano rinchiusi, perché era uno status che di fatto dava meno diritti, considerava le persone come sottopersone e come prodotti, e quindi uno status di dominati che rientra in un codice più ampio che possiamo definire il codice dell'indigenato, un codice che veniva utilizzato per distinguere i bianchi, gli europei, dai non bianchi, quindi gli arabi e così via.
Bon, et ensuite on connaît la suite de l'histoire. Tout le monde sait aujourd'hui que la révolution algérienne a mis fin à la colonisation, et que donc elle a mis fin aussi au code de l'indigénat. Et donc normalement, c'est un terme qui devrait être abandonné, voilà, de manière normalement, logiquement. Sauf que
ce qu'il s'est passé, c'est que si la guerre de libération en 1962, la victoire algérienne a effectivement ouvert une séquence d'émancipation des peuples du Sud, cette séquence, elle a été caractérisée ensuite par des contre-offensives, de multiples contre-offensives coloniales, en fait, de la France, qui a cherché à limiter les droits de ceux qui avaient gagné la guerre, en fait. Et donc, je continue. Et donc, c'est nous, en tant qu'enfants, en tant que descendants d'ex-colonisés, descendants d'indigènes, on a trouvé pertinent de reprendre cette terminologie pour dire, en fait, que la colonisation, c'est pas terminé, en fait. Il existe aujourd'hui en France, mais en Europe, hein, de manière générale, il existe aujourd'hui un continuum colonial qui continue de structurer la société française de telle sorte que on a une hiérarchisation qui est exactement la même, mais qui prend des formes évidemment plus subtiles, on va dire, que sous la colonisation, mais qui continue à hiérarchiser les populations blanches et non blanches en faveur, bien sûr, des populations blanches, quoi.
Poi sappiamo, insomma, quello che è successo. C'è stata la rivoluzione per la liberazione dell'Algeria, la rivoluzione algerina, che ha messo fine alla colonizzazione e al codice dell'indigenato di cui parlavo prima, che di fatto è un codice che è stato abbandonato. È stato abbandonato grazie a questa vittoria, di questa prima libertà, che ha aperto poi a una sequenza di lotte per la liberazione, di vittorie di liberazione, ma sappiamo anche che sono poi continuate anche le offensive contro chi aveva guadagnato la propria libertà, contro offensive che hanno tentato in tutti i modi di limitare i diritti appunto di chi si era liberato. E noi discendenti di chi ha portato avanti queste lotte cerchiamo quindi di riprendere questa terminologia, riprendere la terminologia dell'indigenato per spiegare che la colonizzazione non è finita, anzi siamo ancora oggi in un continuum di processi di colonizzazione che strutturano anche la società francese. La strutturano chiaramente attraverso delle forme più sottili, ma che continuano a creare delle gerarchie importanti e delle divisioni tra bianchi e non bianchi, chiaramente a favore dei bianchi.
Et c'est aussi important pour nous stratégiquement, parce que ça nous a permis aussi, en tant que militants antiracistes, de repolitiser la question du racisme, qui jusqu'ici était en fait pensée comme une question uniquement morale, en fait. C'est une question de haine de l'autre, de l'altérité, et que c'était donc, si c'est une question morale, c'était une question qu'on pouvait résoudre simplement par le biais de l'éducation, qu'en fait c'est presque le racisme, ce serait comme un malentendu, en fait. Il s'agirait juste d'éclaircir le malentendu et le racisme serait terminé. Ça, c'était vraiment l'antiracisme moral qui a été porté par la gauche, en fait, avant l'émergence des mouvements décoloniaux. Et nous, quand on est arrivé sur le terrain politique, c'était important pour nous de dire que nous étions des indigènes pour dire, en fait, que le racisme est une question politique qui a une histoire, en fait, qu'il fallait réhistoriser, c'est-à-dire qui appartient à l'histoire de la France, à l'histoire de la République, et qui donc est, lié au fondement même de la République. Et que donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui oblige à repenser en fait l'intégralité du projet républicain français. Que c'est pas simplement, comment dire, un dysfonctionnement de la République. C'est vraiment son fonctionnement réel, quoi. Et donc voilà, c'était une manière aussi pour nous d'inventer ce qu'on a appelé ensuite, et ce qui aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le caractérise, l'antiracisme politique, contrairement à l'antiracisme moral ou humaniste, quoi.
Riappropriarci di questa terminologia dell'indigenato è stato anche un'importante strategia per noi dei movimenti decoloniali, perché ci ha permesso di ripoliticizzare la questione del razzismo, una questione che veniva posta come una questione morale, che quindi poteva essere risolta in Francia attraverso progetti di educazione, come se il razzismo fosse quasi un malinteso che andasse a spiegare meglio. Questo appunto veniva definito l'antirazzismo morale, che per molti anni ha appartenuto anche alla sinistra francese prima dei movimenti decoloniali. E con i movimenti decoloniali, dicendo appunto siamo indigeni, il razzismo è stato ridefinito come una questione politica da reinserire nella storia della Repubblica Francese, nei suoi fondamenti, e quindi come qualcosa che gli appartiene strutturalmente, quindi ripensare il progetto repubblicano in tutto e per tutto. Grazie appunto al movimento decoloniale va ripensato tutto il progetto della Repubblica Francese, perché appunto il razzismo è parte intrinseca del suo funzionamento, e così si è creata anche questa distinzione tra l'antirazzismo morale e quello che oggi definiamo come l'antirazzismo politico.
J'fais le tour du quartier, j'prends de l'âge, j'ai pris balle dans la jambe. Hier, 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 hey. Tu m'attendais dans la chambre, bébé, 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 hey. Pourquoi je n'y étais pas? L'amour des sous a pris le dessus, l'argent guide mes pas. Lève pas la main, j'te tire dessus, pourquoi je n'y étais pas? L'amour des sous a pris le dessus, l'argent guide mes pas. Lève pas la main, j'te tire dessus. C'est jamais terminé, toujours un Yankee devant la porte du cabinet. Protez-moi la file, y'a la tente comme au Guinée. Que statue porte le haine, c'est trop à la ladine. Reste à distance, le respect c'est vital.
Ed entriamo adesso nel vivo di ciò di cui tratta il libro, che è appunto la barbarie intesa sia come una disumanizzazione dei popoli coloniale, ma anche come un movimento di riappropriazione, esattamente come l'indigenato di cui abbiamo parlato adesso. Per introdurre questo vi leggo un passaggio del libro che secondo me è abbastanza chiarificatore. Esattamente questo, ciò che appaiamo agli occhi dell'amministrazione coloniale: una sottospecie confinata allo stadio primitivo dello sviluppo umano, una massa informe e moralmente abietta. Quando sembriamo innocui, sono selvaggi, siamo selvaggi. Quando ci ribelliamo, siamo barbari. E questo in realtà è a partire dall'esperienza di Kateb Yassin, un poeta e intellettuale algerino, che viene arrestato a 16 anni durante una manifestazione a favore dell'indipendenza algerina e quindi contro l'amministrazione coloniale. Ed è proprio in prigione che lui capisce che cosa vuol dire essere un popolo assoggettato all'impero, e nel libro viene descritta così questa sua epifani. Il suo status sociale non modifica le cose. In prigione capisce che non è mai uscito da quella zona, che tutti i suoi sforzi per parlare la lingua del civilizzatore e padroneggiare il suo mondo sono inutili di fronte a questa verità. Sono un barbaro, resto barbaro. E quindi chiediamo a Luisa Yousfi che cos'è questa barbarie di cui tratta nel libro e come possiamo riappropriarci di questo concetto per farne una resistenza contro l'imperialismo e il colonialismo.
Bon, alors, pour moi, c'était intéressant de me saisir de cette terminologie de barbare, parce que ça permet de mettre au jour le dilemme et l'étau, je sais pas si tu vois, un étau, c'est presque, tu sais, on est entre deux pièges, quoi. Tu vois, on a deux dangers, en fait, et on est coincé à l'intérieur de deux dangers, d'un paradigme, on va dire, qui fait que soit, effectivement, on est des barbares du point de vue raciste, c'est-à-dire du point de vue des racistes proclamés, quoi. Je veux dire, l'extrême droite, la droite, on est des barbares. Ça, c'est au sens premier du terme. Ça veut dire que on est des populations qui n'avons pas, comment dire, de moralité propre, pas de culture digne d'être défendue, et que on représente un danger pour l'intégrité de la civilisation européenne et française. C'est que, donc, par exemple, notre présence, elle est toujours reliée à des questions d'insécurité, de délinquance, ou alors liée à presque quelque chose comme une contamination morale que feraient peser les Noirs et les Arabes, les musulmans, sur la civilisation blanche chrétienne. C'est-à-dire que nous, voilà, on a des archaïsmes. Et voilà. Et ça c'est la thèse barbare. Et face à ça, nous, en tant que racisés, quoi, en tant que Noirs et Arabes, en fait, le réflexe qu'on a eu spontanément, historiquement, et c'est normal qu'on l'ait eu, c'est-à-dire de se défendre de ça. Et de dire, c'est pas vrai, en fait, on est des humains comme les autres, on n'est pas des barbares, etc. Mais en faisant cela, on est tombé dans l'autre piège, quoi, qui est celui de la gauche, qui est, en fait, le paradigme intégrationniste. Et donc, c'est celui qui va plutôt dire que on n'est pas des barbares, mais en fait, on est des sauvages, au sens où on est des bons sauvages. Et donc, c'est simplement que si on reçoit, comment dire, la bonne éducation, si on est traité avec soin, avec respect, etc., peut-être que on va finir par être des êtres humains à la hauteur, en fait, des blancs. Et en fait, ça veut dire que pour la gauche, en fait, elle peut pas concevoir la dignité, en fait, de nos vies indépendamment de l'intégration de ces vies dans la norme qui domine, en fait. C'est-à-dire que plus on est intégré, et plus, effectivement, on est en droit d'attendre des choses, quoi. Mais donc, c'est-à-dire que notre salut, il ne passe que par l'intégration, sans qu'on ait jamais à interroger ce que ça signifie, cette intégration. Et l'intégration à quoi ? Et à quel monde ? Et est-ce qu'on veut vraiment s'intégrer à ce monde-là ?
Allora, per me è interessante mettere in luce con il concetto di barbaro, di barbari, una sorta di trappola all'interno del quale ci troviamo come popolazione razzializzata. Una trappola tra due grandi paradigmi. Il primo paradigma è quello del razzismo proclamato, quindi il razzismo che conosciamo come il razzismo dell'estrema destra, che ci chiama e ci definisce come barbari. La possiamo chiamare la tesi dei barbari che ha l'estrema destra, e che quindi ci vede e ci definisce come una popolazione senza morale, senza cultura degna di nota, come una popolazione pericolosa per la civilizzazione francese ed europea. E quindi in questo paradigma la nostra presenza viene collegata al rischio di una contaminazione della morale francese da parte dei musulmani e dei neri. Noi, di riflesso, come popolazione razzializzata, nel tempo abbiamo provato a rispondere a questa accusa in termini di risposte che implicavano frasi come non è vero, non siamo così, e attraverso questo tipo di giustificazione di fatto siamo caduti nell'altra trappola, nell'altro punto e l'altro paradigma, il paradigma integrazionalista. Ovvero, non vi preoccupate, siamo dei buoni selvaggi, e se riceviamo un'educazione, così viene dipinto anche insomma dai francesi bianchi, se queste persone ricevono un'educazione, se siamo trattati bene, allora possiamo essere umani all'altezza dei bianchi. Quindi attraverso questo secondo paradigma di fatto le persone razzializzate non ricevono una dignità per la loro presenza, ma solo in relazione al fatto che vengano integrate, quindi in relazione all'integrazione di queste vite, senza poi porsi mai il problema di che cosa significa questa integrazione, integrazione a cosa e a società con quali valori, e se veramente questi sono valori giusti.
E quando quando on comprend en fait que ce qui est appelé la barbarie par nos ennemis, c'est-à-dire cet endroit-là qui serait en nous, en fait, quand on comprend que c'est la manière, en fait, qu'ils ont de nommer notre altérité radicale, ça veut dire notre altérité qui n'est pas soluble dans le projet. C'est-à-dire, du coup, on comprend que c'est la part en nous qui résiste, en fait. C'est la part qui n'ont pas réussi complètement à coloniser, en fait, du point de vue de tout, du point de vue culturel, moral, etc. Et quand on comprend ça, on comprend que c'est aussi, finalement, le lieu de notre dignité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans les populations noires et arabes, effectivement, qui résiste à l'intégration. On continue à tenir à nos identités, à tenir à nos langues, à tenir à notre foi, quand on est musulman, à tenir à ce que nous sommes, en fait. Et ça, en fait, je pense que c'est l'apport des mouvements décoloniaux, a été de dire cet endroit-là, qui est l'endroit de la barbarie, donc de l'altérité irréductible, en fait, de l'antagonisme irréductible, cet endroit-là, non seulement il n'est pas le lieu de notre, comment dire, ensauvagement, au sens où c'est quelque chose qu'il faudrait se débarrasser, donc ça, c'est ce que pensent à peu près tous les chéquiers politiques, même la gauche. Non seulement c'est pas quelque chose dont il faudrait se débarrasser, mais en plus, c'est l'endroit par lequel on peut essayer d'élaborer un projet politique qui propose une véritable alternative, même pour la société blanche, en fait. C'est-à-dire qu'on peut même, à partir de là, puisque nous sommes les plus à même, en fait, c'est nous qui avons le plus intérêt à faire advenir un autre monde, en fait, une autre société. En fait, on n'est pas seulement des êtres voués à être sauvés par une société qui existe déjà. On est, en fait, porteurs, nous-mêmes, d'un projet, en fait. Nos identités sont possiblement l'endroit par lequel on peut imaginer une alternative possible.
Quindi quando capiamo come si è data questa definizione di barbaria e di barbaria, capiamo che è anche un luogo di resistenza. Il fatto di resistere a queste forme di integrazione è di fatto un'attività profondamente radicale che in noi, popolo appunto razzializzato, musulmani, neri in Francia, che lo vivono come qualcosa della propria identità che non è solubile, quindi che è parte di una resistenza che la Francia non riesce a colonizzare. Questa identità di barbaro è quindi un luogo di resistenza, un luogo di indipendenza e al quale teniamo anche nella vita di tutti i giorni, lo vediamo come teniamo alla nostra religione, alle nostre identità. E quello che ha fatto il movimento decoloniale, i movimenti decoloniali in Francia, è stato riconoscere che fosse una forma di antagonismo ineluttabile. E quindi non ci dobbiamo più disfare del nostro essere barbari, ma anzi questo è il luogo dove vogliamo elaborare un nostro progetto politico. E non vogliamo essere salvati da una società vecchia alla quale dobbiamo adeguarci, ma vogliamo ripensare un'altra società. È proprio grazie a partire dalle nostre identità che possiamo pensare a delle nuove società possibili.
Fort, t'es trop dangereux. C'est le mec, on m'a dit pas, ici c'est dead, mec. J'suis venu pour le titre, pour le chèque, le meilleur et pour le pire. Par là pour rire, intouchable, tu peux qu'arracher mes stickers. Et le style a bien la gueule d'un missile Stinger. On a dit que j'avais le V, c'est la vertu. Mais j'aurais plus d'ouverture sans maison de disque. Bouge pas, on m'a dit rhum, j'suis pas les chromas. J'suis venu en paix, un 44 contre l'estomac. On m'a dit qu'il y avait de l'or et des lauriers dehors. La météo affiche boobs, le météore. J'serais pas la putain de l'état. Négro, bientôt j'ouvrirai même plus leur putain de lettres. On m'a dit de changer des mots pour pas que les psys me suivent. Pas grâce à moi qui pense à donner devant leur. On m'a dit, oh, t'es bon qu'à squatter les halls. Et leur dernière vision sera un gun et un chauve. On m'a dit pars pas, sans leur montrer de quoi t'es capable. Fais attention, on m'a dit que lui c'est un chauve. On m'a dit regarde ce qu'on fait pour de l'argent.
Allora, come sempre comunicazione, nel caso ci fossero domande o riflessioni da parte del pubblico, non esitate a farli, i microfoni sono aperti. Basta insomma farvi fare un cenno e vi passiamo il microfono. Passiamo invece adesso a come la barbarie diventa poi un veicolo di razzializzazione e di assimilazione all'interno dell'impero e diventa proprio un processo di integrazione, nella misura in cui per integrarsi all'interno dell'impero una persona razzializzata potrebbe dover assumere quella barbarie insita in un impero coloniale. Quindi parliamo di tutto quel passato violento, oppressore e schiavista, quindi la seconda faccia della barbarie, la barbarie intesa come processo di integrazione causata non dalla mancanza della civilizzazione, ma anzi da troppa civilizzazione, da troppa oppressione.
Bon, ça c'est. Il faut. Alors, si je dis ça, l'ensauvagement est un processus intégrationniste. Je le dis parce que. Ce qui domine en fait comme discours, le discours hégémonique dit précisément l'inverse, dit précisément que l'intégration c'est le salut, c'est vraiment c'est l'amélioration à tout niveau de l'indigène et que tout ce qui dysfonctionne en fait chez nous, et ça après on peut essayer de voir précisément de quoi on parle, mais tout ce qui dysfonctionne, donc par exemple admettons le terrorisme, voilà. Le fait qu'il y ait du terrorisme en France, bah, c'était des musulmans, des arabes musulmans qui ont fait des actes terroristes. Et donc, quand ces actes terroristes ont eu lieu, on a renvoyé immédiatement, automatiquement, les raisons de ce terrorisme-là à une espèce de, comment dire, de choses qui seraient liées de manière endogène à la culture des musulmans, aux pays arabes. Il s'agissait de comprendre c'était quoi l'islam, pourquoi dans l'islam il y a des gens qui se sont mis à s'improviser exégètes du Coran alors qu'ils n'ont jamais lu le Coran, mais qui se sont mis à dire mais voilà, c'est quelque chose qui est lié à leur identité et donc c'est pour ça qu'ils ont fait ces actes de violence, etc. Mais à aucun moment en fait ils ont pensé, et c'est ça, et c'est de ça dont il est question. Ils ont pensé que pourquoi des jeunes arabes français qui ont connu quasiment que la France se sont mis à faire des actes terroristes en France. Est-ce que c'est pas lié davantage à la France que lié à une espèce de culture originaire, je sais pas quoi. Et en fait, ce que je dis, c'est que les monstres, nos monstres, naissent au contact de la France, et notamment, plus précisément, au contact du paradigme intégrationniste, qui est en fait une impasse existentielle pour nous. Parce que c'est quoi le paradigme intégrationniste ? Le paradigme intégrationniste nous dit, si vous voulez avoir une place dans cette société, vous devez renier tout ce que vous êtes. En fait, c'est ça à peu près. Il faut vous débarrasser de tout ce qui fonde votre identité historique. Il faut... Voilà, comment dire, faire une rupture générationnelle avec la culture de vos parents, de vos pays, etc. Et il faut, en fait, devenir les soldats de l'empire qui vous a opprimé, en fait. Et ça, évidemment que ça crée des problèmes dans nos têtes, partout. Ça peut pas être quelque chose de, comment dire, de sain ou de pacifique. En fait, c'est une guerre. C'est une guerre qui nous est menée. C'est une manière de dire, on va... L'intégration, pour nous, elle est vécue comme une guerre intérieure. Voilà, pardon.
Quindi nel mio libro parlo di questi aspetti, del fatto di essere selvaggi come qualcosa che rientra in tutto e per tutto nel progetto integrazionista. Anche se in superficie quello che si vede all'interno del progetto integrazionista è un po' il contrario, no? L'integrazione è quella che dovrebbe renderci migliori in tutto e per tutto e trasformarci appunto da indigeni a persone integrate. Quando c'è qualcosa che non funziona nelle società europee, nelle società occidentali, in Francia, prendo l'esempio del terrorismo, questo viene immediatamente ricollegato al fatto di essere arabi, al fatto di essere musulmani, quindi di dire gli atti terroristici vanno ricollegati, questo come spiegano il terrorismo, a motivi legati alla cultura musulmana. Sono atti da spiegare in relazione, per esempio, al Corano. Parlano di Corano persone che magari non lo hanno mai studiato, e di relazione tra Corano e identità, appunto, per la popolazione razzializzata in Occidente. Ma in questi collegamenti non viene mai preso in considerazione, non ci si interroga mai sul perché invece i giovani arabi che hanno fatto questi atti, che hanno fatto terrorismo, in realtà forse lo fanno proprio in relazione alla Francia, in relazione al legame che hanno con la Francia, quindi non in relazione a una loro cultura originaria, ma in relazione a quello che crea lo scontro con la cultura francese e con il progetto integrazionista che viene loro imposto. Quindi si può parlare di questi atti come invece proprio un impasse del paradigma integrazionista, che chiede alla popolazione razzializzata di rinnegare quello che si è, di tracciare dei confini con l'identità storica della propria famiglia. Ci viene detto: rompete, diventate soldati dell'impero. E questo chiaramente crea dei problemi nelle nostre teste, si crea una sorta di guerra che ci viene imposta proprio da questo contatto con il progetto integrazionista.
Giusto, no, ma du coup, je rajoute simplement que c'est un ensauvagement pour nous, ça. Ça, c'est le véritable ensauvagement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça nous fait devenir les défenseurs d'un ordre racial, d'un ordre inégalitaire, d'un ordre capitaliste. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui nous abîme. C'est au contraire, non seulement c'est pas ça qui va nous sauver, mais c'est ça qui va nous abîmer davantage encore. Et donc, c'est une manière aussi d'interroger c'est quoi, encore une fois, ce projet-là qu'on est censé endosser. Voilà. Et je rajoute en plus que c'est, pour nous, par ailleurs, ça prend la forme d'une aliénation, puisque nous savons, nous avons la mémoire que c'est un ordre qui nous a écrasés, quoi. Et qui continue aujourd'hui à écraser les pays du Sud, donc nos pays d'origine, qui sont notre famille, tu vois, qui continuent à génocider la Palestine. Est-ce que moi j'ai envie d'être une Française comme les autres? Parce que c'est ça le projet, il faut devenir des Français comme les autres. Mais est-ce que moi j'ai envie d'être une Française comme les autres, comme au moment où être Français, c'est être un pays génocidaire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, et en quoi ça c'est censé faire de moi quelqu'un de meilleur, quoi?
E aggiungo un ultimo punto, che quindi perché dover voler appartenere a questo progetto di integrazione? Perché difendere di fatto un progetto che continua a essere un progetto di ordine razziale, di ordine capitalista, e che di fatto ci rovina ancora di più? E quindi è importante interrogare per noi questo progetto, che corrisponde anche a una forma di alienazione, perché ci ricordiamo come la proposta dell'integrazione di fatto abbia schiacciato le nostre generazioni, i nostri antenati, e di fatto continui a schiacciare anche oggi tutto il sud del mondo e la popolazione nel sud del mondo. E quindi facendo l'esempio di una domanda: voglio essere francese oggi, voglio appartenere a questo progetto di integrazione, se oggi la Francia di fatto è il paese che giustifica il genocidio del popolo palestinese, che appunto lo legittima e in qualche modo ne prende parte? Voglio davvero rientrare in questo progetto di integrazione, in questa cultura?
Grand chose en médecine, mais je sais que je...
E ci stiamo quindi interrogando se ci siano dei metodi, delle pratiche militanti anche per resistere a quello che di fatto è una guerra assimilatrice portata avanti da secoli, nel caso della Francia, e quali strategie mettono in atto, ad esempio, i giovani e le giovani ragazze razzializzate in Francia.
Bon, ça c'est des choses qui se décrètent pas par le haut, voilà. C'est des stratégies, c'est des stratégies à mener sur le plan directement militant et politique. Et par ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà en train d'être faites et mises en place depuis, en France en tout cas, depuis à peu près, on va dire une trentaine d'années, 25 ans, allez, 25 ans. Et en fait, c'est ça que fait le mouvement décolonial. Alors, qu'est-ce que fait le mouvement décolonial concrètement ? Eh ben, il crée un nouveau territoire politique, c'est-à-dire qui est rattaché à un agenda politique qui est propre, qui est spécifique aux populations issues de l'immigration, c'est-à-dire pas quelque chose qui les rattache à un autre, voilà, à d'autres intérêts, etc. C'est-à-dire que les intérêts des populations issues de l'immigration doivent être défendus par eux-mêmes, c'est-à-dire voilà, on doit nous constituer une force politique qui soit assez conséquente en fait pour que nous puissions faire porter la question antiraciste, non pas comme quelque chose, comme une lutte sectorielle qu'il s'agirait de régler qu'il s'agirait de traiter comme une maladie, mais comme quelque chose qui au contraire a la possibilité de porter en fait un projet de société collectif. Et dans les faits, c'est ce qui est en train de se passer en France. Ça a été extrêmement dur, ça a donné lieu à des luttes politiques extrêmement violentes, à une hostilité extrêmement violente, notamment de la gauche, peut-être presque plus de la gauche, puisque en fait, il y a une bataille de leadership à cet endroit-là. À l'endroit, parce que les populations issues de l'immigration sont les populations les plus pauvres. Donc c'est le prolétariat, en fait, le prolétariat français. Mais ce prolétariat-là, il a échappé à la gauche. Pourquoi il a échappé à la gauche? Nous, on a été là pour le dire. Pour le dire parce que vous ne respectez pas ce prolétariat-là, parce que vous ne le comprenez pas. Et c'est à nous, en fait, de le structurer, de faire émerger, comment dire, une conscience collective, en fait, de cette réalité qui est spécifique, de manière à mener une lutte qui se mène vraiment sur le plan politique. Voilà. Et en fait, ça, c'est des choses qui se font. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui se décrètent, quoi.
Le strategie sono di fatto strategie che non si decidono dall'alto, ma che rientrano in un piano militante, in un piano politico, e che non sono io ad inventare. Sono più o meno 25-30 anni che esistono e che in varie forme la popolazione razzializzata francese, popolazione appunto di origine migratoria, resiste e portano appunto strategie che portano avanti. Il movimento decoloniale quello che fa è creare questo nuovo territorio politico e un'agenda a tutto questo, una propria agenda politica per la popolazione di origine migratoria, affinché al centro di questo progetto ci siano i loro interessi, ma anche le loro voci, e quindi ripartire da noi come forza politica e forza alla base di un progetto politico più ampio, dove facciamo emergere come la questione razzista non sia solo come una malattia da curare, ma qualcosa che è alla base di un nuovo progetto collettivo di società. Questo tipo di strategie spesso crea problemi, spesso con la sinistra francese, europea, perché se vogliamo è anche un luogo di battaglia di leadership. Di fatto la popolazione razzializzata è anche il proletariato francese, e quindi la sinistra, non riuscendo a intercettare quel tipo di popolazione, perché non la capisce, perché non riesce a dialogarci, di fatto poi appunto ha paura di perdere terreno. E quindi siamo noi che dobbiamo far emergere questa coscienza collettiva, non saranno altri attori, siamo noi che dobbiamo creare questo progetto politico. E 41 sulle libere frequenze di Radio Blackout, continuiamo dal vivo dal Festival dell'Alta Felicità. Siamo in dialogo con Luisa Iusfi, autrice del libro Restare Barbari, i selvaggi all'assalto dell'impero. Luisa, grazie per essere qui con noi. Luisa parteciperà anche a un dibattito questo pomeriggio dove si affronterà anche la questione palestinese. Le facciamo un'ultima domanda sul suo libro, dove all'interno del quale parla anche del tramonto della morale occidentale. Ecco, leggendo ci pareva interessante però attenzionare questo tema, sottolineando come se da un lato, e ci spiegherà come si può vedere un tramonto della morale occidentale, questa viene anche utilizzata ancora oggi dai media, nelle narrazioni internazionali, per giustificare tutte le forme di colonialismo e neocolonialismo che vediamo, e anche il genocidio in corso in Palestina. Quindi chiediamo a lei di illuminarci un attimo su questa differenza, come in un certo senso la morale occidentale stia tramontando, anche se continua ad essere utilizzata come giustificazione.
Parti, pas pris, si je suis parti, c'est pas de ma faute. Certaines tahanes acceptent pas leur vie. Trop de monde te fuit, tu manques. Ça t'ancrait peu de choses. Je guette mon retour comme un gardien devant sa tour close. Quelques pros pour ma famille que je connais pas. Au 20e siècle, c'est pas admis. C'est pas que je peux pas, mais je veux pas y aller. Je suis pas un Zorro. Je dis seulement ce que je ressens et pas un Zorro.
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la. Je dirais que la spécificité, ça c'est intéressant de s'en rendre compte, c'est que la spécificité de la domination occidentale, impérialiste, moderne, a toujours été de, en fait, commettre un crime et l'escamoter en même temps. C'est-à-dire que d'accompagner toujours toutes les logiques impérialistes d'un récit qui, en même temps, produit la légitimité de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment l'Occident qui a créé ça, hein, le fait de faire ça, c'est-à-dire de toujours tenir à l'innocence de son geste. On fait toujours des guerres, toujours pour le bien, c'est jamais pour le mal. Et c'est presque, comment dire, c'est la nature même de la barbarie occidentale. La nature de la barbarie occidentale, c'est d'être innocente. C'est d'être civilisatrice, c'est d'être, on fait la guerre pour la démocratie, on fait la guerre pour défendre les femmes, c'est en Afghanistan, dans les pays, en Iran. C'est toujours pour des belles raisons, des belles causes, quoi. Et ça, le fait de tenir comme ça à son innocence, c'est ça la barbarie occidentale. C'est d'être aussi propre, vraiment. C'est le fait de tenir à l'innocence. Et donc, c'est ça qu'on dit quand on dit qu'aujourd'hui, il y a la fin de l'innocence occidentale. Bon, c'est une façon de le dire un peu vite, parce que c'est pas, évidemment que c'est pas terminé. La domination existe toujours. La domination est toujours là. Je veux dire, les génocides... On vit actuellement un génocide à Gaza. Mais le récit qui est censé accompagner ces politiques impérialistes, il nous semble... que ce récit-là, il est plus difficile à porter, il est de moins en moins crédible, et surtout, il est, il est concurrencé par un contre-récit qui est celui des nôtres, en fait, qui est celui du mouvement décolonial, notamment, qui est un mouvement qui a pris de la force, en fait, qui a pris de la force sur le plan aussi de l'opinion publique, et qui a les moyens aujourd'hui d'opposer, de faire une contre-hégémonie à cet endroit-là. Et de dire, en fait, ce récit-là, voilà cette arnaque-là.
La spécificité de la domination occidentale est sempre stata quella di commettere un crimine nel mondo, e poi immediatamente giustificarlo con un racconto che produce legittimità in relazione all'azione compiuta. E questo è un meccanismo tipicamente occidentale, intrinseco alla cultura occidentale, ovvero quello di proclamarsi innocenti, proclamarsi dalla parte del bene. E io sostengo che questa è la natura stessa della barbarie occidentale. Se dovessimo definire la barbarie occidentale, è proprio il fatto di definirsi costantemente come essere civilizzatore, come essere in difesa delle donne, in difesa di belle cause di liberazione nel mondo, e il fatto di tenere all'essere puliti, di tenere alla propria innocenza, è la natura stessa della barbarie occidentale. Oggi siamo in un certo senso al tramonto di questa innocenza occidentale, credo, anche se i genocidi continuano, il genocidio che è in corso in Palestina, forme di oppressione e di colonizzazione nel mondo vanno avanti, ma ci sembra che questo progetto sia sempre meno credibile, questa narrazione di legittimità e di giustificazione sia sempre meno credibile come racconto. Questo perché questo racconto deve anche far fronte a una contronarrazione, a una controegemonia che stiamo portando avanti con i movimenti decoloniali, una narrazione che è quella decoloniale e che negli ultimi anni si è anche molto diffusa all'interno della società civile.
Et juste ce déclin du récit de l'innocence, il n'est pas seulement à prendre comme une bonne nouvelle. Je veux dire, il est à double tranchant. Il est dangereux aussi, ce déclin. Pourquoi ? Parce que, en vérité, quand un empire est en train de sombrer, c'est là qu'il révèle ses plus grands monstres, en fait. Et en fait, il s'autorise tout. Il y a plus de... C'est-à-dire qu'il y a presque plus de remparts ou de mécanismes qui visent à canaliser la violence de l'État. Et donc, nous pensons par exemple que le fait que le fascisme arrive en France, là, qu'il soit aux portes du pouvoir en France, le fascisme, en fait, c'est la forme, le visage qu'emprunte la barbarie blanche quand elle est plus, elle a plus de récit, elle veut plus sauver un récit de l'innocence. Quand elle accepte sa culpabilité avec cynisme, voilà, nous on est, c'est vrai, il y a une supériorité de la race blanche, c'est comme ça. Et puis, et alors, c'est la loi du plus fort, c'est comme ça. Et donc, je veux dire, ça peut donner lieu aussi, pas seulement à la chute de la domination occidentale, ça peut juste lui donner un visage encore plus tyrannique. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la fin du récit de l'innocence ne suffit pas à faire tomber le système en lui-même. C'est-à-dire que c'est un terrain qui est intéressant à saisir, à voir, mais il faut continuer à mener la lutte aussi sur le plan directement politique, et pas seulement de l'énonciation, du récit qui accompagne, etc. Puisque sur le plan politique, en vérité, la traduction de tout ça, c'est l'arrivée du fascisme en France, quand même.
È importante vedere come il declino di questa narrazione dell'innocenza occidentale, se da un lato è una buona notizia, dall'altro è anche molto pericoloso. È pericoloso perché poi è proprio quando l'Occidente si sente in una fase di declino che rivela i suoi mostri più grandi, il periodo in cui in un certo senso ci si autorizza tutto, in cui appunto la violenza statale non ha più margini e non si riesce più a canalizzarla. Infatti si può ricollegare il declino di questa narrazione dell'innocenza occidentale anche all'ascesa del fascismo, come si sta dando al momento in Francia. L'ascesa del fascismo è un volto, il volto della barbaria bianca, quando questa barbaria e chi la rappresenta accetta con consapevolezza il suo operato, quindi non rinnega più, non cerca più di legittimarsi con un racconto altro, ammette siamo bianchi, siamo più forti, è così e noi andiamo avanti per la nostra strada. Quindi la fine di questa narrazione di legittimità e di innocenza di fatto può suscitare un imperialismo ancora più tirannico. E quindi dico, la fine del racconto dell'innocenza non è sufficiente, creare delle contronarrazioni non è sufficiente, bisogna anche agire sul piano politico.
Ouais. Moi je me vois sans les anti-pop de Panam, ouais. Demande à Rémi Rem de Météor, à Mathieu de Planète Sum. Face à toutes mes punches, ils ont pas assez bien. Je flingue sur le rap, bien sûr je peux brasser. Si je fais un feat, y'a que des dingues sur le track du genre Lascar. C'est Cayenne, Sac et Zacharien. Laisse les ricaner, c'est nous qu'on va se marier à la fin. C'est sûr, depuis que je pratique, j'suis perçu comme un mec énigmatique. J'm'applique à faire fusionner fond et forme, à écrire des images pour implanter mon décor. Y'a pas que du shit et de la bière, y'a des amis, y'a ma mère, y'a tous les mecs avec qui j'ai connu la vie de galère. Écrire des rimes, je savais que ce serait risqué, parce que tu tripes de salaire quand t'enlèves le slip que t'avais. Comment se vider la tête dans cette industrie.
Allora, l'approfondimento con Louisa Yousfi, insomma, da parte nostra finisce qua, ma proprio perché vorremmo lasciare spazio a domande e interventi dal pubblico. Senza nessuna pressione, mettiamo qualche minutino di musica, se poi qualcuno o qualcuna si vuole palesare, continuiamo con l'intervista.
Quand on fait les frais, tu peux rouler des mécaniques et le lendemain manger des pièces. Pour boire un peu de vinaigre, taper de la cam, dans le noir avec 10 mecs, frapper du crâne. Non, il faut des centaines, des milliers, des millions, des milliards, des virées, des histoires à raconter à nos progénitures. Genre en 2011, j'ai sorti un projet qui tue. À l'époque, j'étais toxé, alcoolique, je me tuais à la selle. J'y ai laissé des neurones petits, ne fais pas la même. Ou tu goûteras ma ceinture comme j'ai goûté celle de mon père. Je taperai par amour pour que tu manques pas de repères. Voilà deux, trois trucs que je dirais à mon fils. NTM avait raison, faudra pas qu'il glisse. Laisse-moi, je suis dans ma ruche, ouais. J'écris avec la rage, cherche une solution pour devenir riche. J'en ai marre de courir après les lovés. Je voudrais qu'ils viennent à moi pour qu'ensemble on puisse se sauver. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Je ken le rap et de phrases dès que je gratte. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de ta rime, hein? Dis-moi, tu l'as travesti pour du fric. Bois de Boulogne, tu lui as fait baisser son slip. Bois de Boulogne, on n'est pas pareil. Tu te rends Jamaïque à Paris plage. Moi c'est dans ma grotte que j'écoute Vibes Cartel. Pédave la peu devant les bleus, finis avec les yeux rouges. Puis grave la marron dans le noir, c'est plus des gueux, c'est des ouf. Ouais, je suis pas, j'ai du sus, mais je suis pas une classe. Je veux juste gratter ma place. Bref, j'ai que du sus, voilà.
Abbiamo già una prima domanda qui da dietro lo stand di Radio Blackout.
Sì, la mia domanda è sul ruolo del rap. Nel libro parli del rap come una forma contro come una forma di barbarie contro un sistema. Anche in Italia si inizia a vedere il rap delle seconde generazioni e spesso viene additato come sessista, maschilista, violento, volgare, e anche lo Stato cerca in qualche modo anche di reprimere questi nuovi rapper che nascono con anche delle forme di repressione pesante, violenta. Volevo sapere appunto le tue riflessioni sul rap a cui sei giunta da donna attivista decoloniale.
Oui, pour moi c'était très important en fait de parler du rap dans ce livre, dans ce cadre-là, parce que en vérité je crois que le rap c'est le lieu dans lequel il y a, tu sais comment on dit, un déjà-là décolonial en fait. Tu sais comment on dit, il y a un déjà-là communiste et des endroits où les communistes sont déjà. Là, il y a un déjà-là décolonial à l'endroit du rap. C'est-à-dire un déjà-là de cette utopie qui est la barbarie intime, le maquis intérieur, etc. Il est déjà archivé. Il y a quelque chose de la conscience décoloniale qui est archivée dans cette culture, sans qu'elle soit directement politique, c'est-à-dire sans qu'elle soit conscientisée comme étant un geste politique. Et je crois même que moins elle est conscientisée et plus elle est politique en vérité. Et pourquoi ? Parce que le rap, c'est l'endroit précisément par lequel on est plus soumis en fait à la respectabilité, à l'exemplarité. on va précisément à l'opposé complètement de ça. C'est un endroit par lequel on va assumer précisément, même on va jouer en fait avec les stigmates qui nous sont accolés. C'est l'endroit par lequel on est des sauvages. Bah d'accord, alors on joue ce jeu-là, on maltraite la langue, on la respecte pas, la langue française, on la maltraite, on la mélange, on en fait ce qu'on veut, on joue avec elle, on joue avec des représentations de la violence des quartiers, etc. Et ben, on le surjoue encore, on le théâtralise. Et ça, c'est des choses qui sont un refus, en fait, d'une ligne de défense qui est la ligne de défense un peu faiblarde, capitularde, de ceux qui disent « Mais non, on est dans les quartiers, il n'y a pas que des dealers, il y a aussi des avocats, il y a aussi des médecins. » C'est des manières de, justement, d'opposer autre chose et de se raconter, en fait, en puissance. C'est-à-dire que c'est plus... Parce que cette ligne-là, ce récit-là, qui consiste à dire « Mais non, il faut montrer des représentations de nous-mêmes qui soient valorisantes, valorisées. » Ça, c'est une capitulation, en fait. Et ça nous affaiblit. Parce que ça fait de nous... C'est une manière de dire... C'est une manière de rassurer, en fait, les racistes, quoi. C'est une manière de dire « Mais non, vous inquiétez pas, on est inoffensifs. Vous n'avez rien à craindre de nous. » Le rap, les rappeurs, ce que ça a dit, au contraire... C'est vous avez raison de craindre, de nous craindre. Vous avez raison, en fait. Vous avez raison parce qu'on est dangereux. C'est vrai qu'on est dangereux. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a gagné les cœurs. Ça gagne, c'est la musique la plus écoutée. Ça a gagné les cœurs, déjà, de tous les quartiers, en fait, de manière spontanée. Parce qu'on sent que c'est une culture dans laquelle on peut enfin respirer, on peut enfin se raconter avec puissance. On est enfin libre.
Nel libro volevo parlare del rap perché credo che il rap è il luogo all'interno del quale c'è già una presenza decoloniale forte. È il luogo dove la nostra barbaria intima rivendicata può prendere spazio, è il luogo dove vi è una coscienza decoloniale forte senza necessariamente che questa sia... conscientizzata come tale, senza che questa sia politicizzata come tale, ma io credo che sia proprio quella poi la sua vera forza politica, il suo essere estremamente politico. Non siamo nel rap sottomessi all'essere degli esempi, al dover essere bravi, anzi giochiamo con lo stigma sociale e col nostro essere definiti come selvaggi. Se ci dite che siamo selvaggi, ok, noi siamo selvaggi, io voglio maltrattare la lingua francese rimettendola in discussione, mescolandola con altre lingue, voglio giocarci, voglio giocare con la rappresentazione violenta che fate di me fino all'estremo, teatralizzandola. Rifiuto appunto l'idea che perché vivo nei quartieri devo essere rappresentato come un buono, ma voglio raccontarmi in potenza. Perché il tentare di aderire a una rappresentazione in quanto buoni di fatto ci indebolisce nei quartieri, serve di fatto a rassicurare i razzisti. E i rapper invece vogliono fare proprio il contrario, rispondono avete ragione ad avere paura, noi siamo pericolosi ed è proprio questo che io trovo interessante e di cui parlo nel libro. Rivendicare questo essere barbari al cuore dei quartieri in modo spontaneo come una forma di liberazione e una forma di divenire in potenza.
Je rajouterai aussi que c'est pas la barbarie aussi dans le rap, c'est pas seulement une manière de faire peur, c'est aussi, je crois que c'est un art d'échapper au pouvoir en fait, et donc d'échapper aussi à la compréhension. En fait, c'est un endroit où on expérimente à chaque fois des manières de ne pas être compris, de justement s'entretenir une espèce de malentendu. Et c'est pour ça qu'il y a une telle expérimentation, une telle créativité à cet endroit, parce qu'on s'autorise tout, et que l'objectif, c'est l'inverse en fait de la littérature sociologique, c'est-à-dire qui consiste à être didactique sur nos vies, une manière de dire voilà qui nous sommes, etc., de nous raconter avec pédagogie. C'est l'inverse. C'est une manière de, dans le rap, l'écriture du rap, l'esthétique du rap, c'est une manière de recréer du trouble, de faire en sorte que en fait, vous comprenez pas, vous nous comprenez pas, et vous nous comprendrez pas. Et à chaque fois, vous avez l'impression de nous comprendre. En fait, c'est toujours pas ça. C'est toujours, on est toujours ailleurs, en fait. C'est toujours différent. Ce qu'on a l'air de vous dire, en fait, c'est toujours pas ça. Et c'est pour ça que la langue, elle est travaillée toujours dans cet objectif-là. Donc, et c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de changer. Que dire, c'est l'endroit où il y a le plus de créativité. Ça n'arrête pas de bouger. Et c'est aussi pour ça que la réception en face, elle est mauvaise du point de vue de l'académie et de l'hégémonie, parce que il y a quelque chose qui est désagréable en fait à l'idée de pourquoi ce truc il nous échappe. Et du coup, si ça nous échappe, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est de la sous-culture, c'est de la merde, on sait pas. Et puis en fait, voilà. Et ça, j'aime beaucoup ça. Même si, je veux dire, il faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, on sait que le rap aujourd'hui aussi a toujours après vocation à être, à être récupéré par l'industrie. Mais c'est avant d'être récupéré, il y a quelque chose qui se crée en fait. Il y a une brèche qui s'ouvre. Et cette brèche, elle est réouverte constamment. Elle est réouverte au fil de l'histoire de cette culture, de cette musique.
La barbarie che è nel rap non è solo legata al fatto di far paura, di voler fare paura, ma è anche legata all'arte di sfuggire al potere, sfuggire al fatto di essere compresi, di dover essere compresi. Infatti è un luogo di sperimentazione di malintesi, di sperimentazione di nuove forme per sfuggire al controllo e all'idea di essere compresi dall'egemonia. E in un certo senso è quindi proprio l'inverso di quello che succede nella letteratura sociologica, dove si tenta di descrivere i quartieri, di raccontarli o di raccontarci noi stessi attraverso un approccio pedagogico, perché nell'inverso, perché si vuole creare e ricreare una costante incomprensione. Avete pensato di capirmi, ma ancora no. E l'esempio del lavoro sulla lingua che viene utilizzata nel rap è proprio parlante in questo senso, ovvero la lingua è uno spazio di creatività che continua a cambiare costantemente, che viene reinventata nel tempo e nella storia del rap. E infatti chi si occupa di lingua dal lato della controparte, dal lato dell'egemonia, non capisce perché sfugge, quindi viene la lingua del rap viene rappresentata come qualcosa che non è valido, qualcosa che è una merda e così via. Poi chiaramente per quanto riguarda il rap c'è sempre il rischio di una sussunzione, no? Da parte dell'industria di questo linguaggio, di questo stile. Detto questo, è anche uno spazio che continua ad aprirsi e a riaprirsi, luogo di, appunto, come si diceva prima, di resistenza, di rimmaginarsi e di affermarsi nella storia della musica che va avanti.
Le couteau fait la taille de Isaac, qui fait la taille de Marge. Si les deux sorties, je te démarre. Je laisse un paquet de feuilles à chaque transaction. Ça me remercie pour la démarche. Je rentre dans la tête comme un chat. Je guette la victime, je la chope. Son téléphone part dans la journée. Donc ce soir, je vais faire des achats.
Mon son, plus la rue, elle a drogue.